Vous écoutez, on lit pour vous.
Maud Massicotte, de Des filles sans limite, Croire aux femmes, écouter leurs besoins, leurs histoires, un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. Maud Massicotte n'est pas devenue entrepreneur par choix, mais par nécessité. En 2015, elle a fondé Des filles sans limite, au départ un organisme constitué en personnes morales, et depuis 2021, c'est un OBNL. Il s'adresse aux jeunes qui vivent les mêmes problématiques. En étant moi-même en situation de handicap, je vivais une injustice sociale. À la majorité, le gouvernement coupe les allocations que les parents recevaient pour avoir du répit, du gardiennage ou de l'aide à la maison. De plus, les personnes, comme moi, qui sont semi-autonomes, au travail, aux études ou faisant du bénévolat et qui veulent avoir une vie sociale, elles doivent débourser pour embaucher une personne qui pourra les accompagner et payer tous les frais relatifs à cette personne, nourriture, transport et etc. Cela commence à faire beaucoup. Trouver ces personnes qui souhaitent effectuer ce travail, ce n'est pas une mince affaire. Alors, certaines personnes ne sortent pas. Elles finissent par s'isoler chez elles parce qu'elles ne veulent pas sortir nécessairement avec leurs proches. Quand on commence la vie de jeune adulte, on veut s'épanouir et être avec des personnes de son âge. Des filles sans limite, c'est parti de là. Aider les femmes vulnérables. L'objectif de Maud Massicotte était de pouvoir s'épanouir en toute autonomie et de le faire entourée de personnes de son âge. L'organisme s'adresse à des adultes de 18 ans et plus. Tant mieux pour les personnes qui vont dans un centre de jour ou un centre de loisirs adapté, et si ça répond à un besoin pour certaines personnes en situation de handicap, explique la directrice de Des filles sans limite. Ceci dit, ces types de milieux axés sur les sorties et les loisirs ne correspondent pas forcément à tout le monde. Et ces endroits sont dotés de règles rigides qui ne conviennent pas en termes d'horaire ni en termes de personnel, notamment. Nul besoin d'un accompagnement spécialisé ou d'une préposée pour pallier aux difficultés motrices de certaines personnes qui sont semi-autonomes, ajoute-t-elle. Depuis 2 ans que l'organisme est devenu un OBNL, Maud et Des filles sans limite ont cherché à se faire connaître, mais je ne suis pas prise au sérieux parce que je parais très jeune, même si j'ai 31 ans. Quand je suis invitée, je me demande chaque fois si c'est pour un besoin de diversité ou une réelle volonté de parler de mes connaissances et mes compétences dans le milieu du handicap. La directrice reconnaît les défis que rencontrent les femmes au quotidien, leur vulnérabilité et encore plus si elles sont perçues comme ayant un handicap. Elles sont vues comme étant des personnes malades, dans un corps malade. Il y a encore plus d'oppression. Les femmes veulent être en sécurité dans leur ville, au travail, avec leurs proches et leurs amis. Elles veulent pouvoir se promener librement. Les besoins touchent à la fois la sphère professionnelle et personnelle. De nombreux besoins particuliers encore à combler. Dans de nombreux domaines, les femmes en situation de handicap vivent des défis. Les déplacements en transport adapté, qui ne sont pas aussi sécuritaires que ce que l'on imagine, les difficultés d'accès à un logement accessible, plusieurs formes de violences, conjugales, familiales, institutionnelles et bien d'autres, le manque d'accès à l'éducation, la discrimination à l'emploi, le manque de représentativité dans les instances décisionnelles comme les conseils d'administration. C'est dans toutes les sphères de la vie qu'il faut se battre pour avoir sa place et obtenir les besoins de base auxquels nous avons droit, dénonce Maud. La directrice de Défis sans limites reconnaît aussi que parfois, certaines actions sont mises en place au profit des personnes en situation de handicap, mais personne n'en assure la promotion. De très beaux programmes et services dont nous pourrions bénéficier. Je prends un exemple très concret. Une piscine refaite et complètement accessible avec un vestiaire universel et un ascenseur qui va dans l'eau. Mais personne ne le sait. Même chose pour des bureaux de vote. En tant que personne en situation de handicap, nous devons fournir l'effort pour trouver l'information alors que tout pourrait être sur un site Internet. Il faut alors téléphoner, laisser un message. Planifier une sortie devient lourd à gérer, s'exaspère Maud Massicotte. Et prévoir des plans A, B, C avant toute action engendre une grosse fatigue mentale. L'imprévu ne se gère pas bien en situation de handicap. Alors les femmes peuvent se retirer de leur participation citoyenne, être découragées, tomber malades et ou en dépression. Il est facile et rapide de tomber dans l'oubli, de se négliger, selon Maud. Un organisme de rencontre, d'échange et de ressources. Défis sans limite cherche donc à offrir des réponses aux questions de ses membres. Par exemple, concernant le paiement d'un premier loyer à l'entrée dans un premier logement. Les personnes en situation de handicap font face à beaucoup de bureaucratie en ce qui concerne le logement, le travail ou de la solidarité sociale, l'accès à des aides financières, REEI, crédit d'impôt, et à des services à domicile. Selon Maud Massicotte, il est vite facile d'abandonner et les organismes qui peuvent aider sont débordés. Les CLSC aussi, le cercle vicieux n'en finit plus. L'organisme propose des rencontres, des échanges, un carnet de ressources, un beau réseau. Et le but est de permettre une pleine participation sociale sans nécessairement être encadré par des personnes du milieu médical, du personnel en réadaptation. À Défis sans limites, on cherche beaucoup à avoir une meilleure cohésion entre citoyens pour avoir un meilleur vivre ensemble. Maud Massicotte se bat pour une meilleure équité, un traitement juste, une meilleure inclusion et davantage de moyens offerts aux femmes en situation de handicap. Il faut commencer à croire aux femmes, à les écouter. Elles ont toutes des besoins différents, des histoires différentes. En tant que femme, on va vouloir retourner dans des endroits où les gens sont accueillants et sensibilisés. C'est important que les femmes se sentent en sécurité dans leur quartier, dans leur logement, détaille la jeune femme. Elle se bat aussi pour que les organismes arrêtent de travailler en silo au sein de la ville. C'était Maud Massicotte de Défis sans limite, croire aux femmes, écouter leurs besoins, leurs histoires, un texte d'Aline Van Compernol, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. S'il fallait résumer les avancées dans la lutte pour les droits des femmes en situation de handicap, ce serait Le communautaire, un texte de Cassandra Boyer, paru dans l'édition Automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. 37 ans de militantisme plus tard, qu'en est-il de la reconnaissance de la spécificité des besoins des femmes en situation de handicap? Rappelons que l'organisation Action Femmes et Handicap, AFH, anciennement Action des Femmes Handicapées, Montréal, AFHM, a vu le jour en 1986, soit au tournant de la troisième vague du féminisme, moment où le féminisme contemporain se voulait intersectionnel. L'absence de considération pour les femmes en situation de handicap au sein du mouvement est rapidement remarquée par ces dernières. Alors que les enjeux liés au capacitisme systémique ne sont pas pris en considération par les groupes de femmes, ce n'est pas tellement mieux du côté du militantisme pour les personnes en situation de handicap. En effet, ce mouvement émergent traite la question du handicap sans tenir compte de l'analyse différenciée selon le genre. Il ne faudrait pas oublier que les postes de gestion sont principalement occupés par des hommes. Les revendications avancées par les femmes en situation de handicap concernant, par exemple, le respect de leurs droits reproductifs ou entourant la violence physique et ou sexuelle qu'elles subissent, ne sont pas prises au sérieux par les militants masculins, Masson 2015. C'est donc dans une ultime tentative de sortir les femmes en situation de handicap de l'invisibilité et d'enfin faire entendre la voix de ces femmes qu'Action Femmes et Handicap est née. Dès sa fondation, les revendications d'Action Femmes et Handicap sont regroupés en quatre grands dossiers, soit celui de la violence, de la santé, de la parentalité et, finalement, celui portant sur les enjeux socio-économiques. Pour AFH, l'année 2022-2023 a été marquée par la conclusion du projet « Du je au nous » entrepris en 2019. Ce fut pour nous l'occasion de consulter nos membres, de voir où elles en étaient, quels étaient leurs besoins les plus criants. Les différentes rencontres que nous avons organisées nous ont confirmé ce que nous constations depuis déjà plusieurs années, bien que les enjeux reliés à chacun de ces dossiers évoluent au fur et à mesure que notre société se transforme. Trois décennies plus tard, nous constatons que nos principales revendications restent d'actualité. Des enjeux qui perdurent, une lutte qui se complexifie. 37 ans plus tard, si les personnes en position de pouvoir continuent de faire l'autruche, c'est qu'elles ne veulent pas voir. Peut-être parce que c'est plus simple comme ça, peut-être parce qu'elles ne voient pas ce qu'elles ont à gagner. Peut-être est-ce tout ça en même temps? Qui saurait le dire? Par contre, AFH peut affirmer encore aujourd'hui que certaines femmes ont du mal à obtenir des soins adéquats et adaptés à leur situation, que ce soit à domicile ou à l'hôpital. AFH peut affirmer que, pendant que celles et ceux qui auraient le pouvoir d'agir semblent ne rien voir, des femmes restent dans des milieux où elles sont victimes de violences, faute de ressources adaptées. Encore aujourd'hui, des femmes sont découragées de devenir mères car leur capacité à devenir mère est remise en question et leur sexualité reste tout autant taboue. De plus, la pleine participation citoyenne des femmes en situation de handicap reste limitée par tous les obstacles qui se dressent entre elles et le marché de l'emploi. La précarité financière dans laquelle elles se retrouvent, faute d'emploi, les place dans l'obligation de vivre dans un logement qui met à risque leur sécurité. En effet, la crise du logement ne les épargne pas non plus. À une différence près, non seulement elles doivent trouver un logement qui est dans leurs moyens, mais ce logement doit être adapté ou adaptable. Ainsi, non seulement nos enjeux restent d'actualité, mais de nouvelles réalités émergentes accentuent les difficultés que nous avons déjà pour faire reconnaître les droits des femmes en situation de handicap. En effet, bien que les membres d'AFH soient majoritairement des femmes vivant avec des handicaps visibles, de nouvelles forces se lèvent. Des femmes aux prises avec un handicap invisible rejoignent nos rangs. Bien qu'il y ait eu quelques avancées à ce sujet ces dernières années, il est indéniable que nous ne mesurons toujours pas l'ampleur de la complexité que représentent les handicaps invisibles. Imaginez, même après 37 ans, il reste difficile pour une femme en fauteuil roulant de faire valoir le fait que son domicile doit être adapté pour qu'elle puisse s'y déplacer en toute sécurité. Alors, comment faire valoir qu'il faudrait que, dans son immeuble, une femme atteinte de sensibilité chimique multiple arrête ou du moins diminue l'utilisation de purificateurs d'air? Mais malgré sa complexité, AFH ne laissera aucune consoeur derrière. Nous nous sommes engagés à faire valoir les droits des femmes en situation de handicap, tout handicap compris, et nous n'avons pas l'intention de déroger de la vision qu'avaient nos fondatrices en 1986. Après tout, donner de la visibilité à celles qui n'en ont pas, n'est-ce pas là le fondement même de notre organisation? Oui, la lutte est difficile et promet de l'être davantage dans les prochaines années ou, devrais-je dire, différente. Oui, les avancées se font au compte-gouttes, mais nous continuerons à nous battre et nous nous assurerons que la lutte pour les droits des femmes en situation de handicap se poursuive tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Et maintenant, nous ne nous battons plus seuls. Des avancées qui se font au compte-gouttes, mais des avancées malgré tout. Si j'avais à résumer en un seul mot les avancées notables dans la lutte pour les droits des femmes en situation de handicap, ce serait le communautaire. En effet, tant dans le mouvement féministe que dans le mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap, on assiste à une montée de la reconnaissance et de la prise en compte de l'intersection du genre et du handicap. La preuve ? Ce numéro du Paraquad. Une avancée majeure des dernières années est l'accessibilité des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. Lors de nos journées d'études des 8 et 9 mars 2023, Louise Lafortune du regroupement des maisons d'hébergement en violence conjugale, RMFHVC, a fait un compte-rendu du projet d'accessibilité adopté par le regroupement dans la dernière année. Un sondage réalisé auprès des maisons auxquelles 32 maisons ont répondu sur 44 au moment de réaliser l'enquête met en évidence que la volonté est là et que des pas ont été faits au niveau de l'accessibilité physique, mais que beaucoup de travail reste encore à faire quant à l'accessibilité des services et la formation des intervenantes. Action Femmes et handicap 2023. Que reste-t-il à faire pour aider la cause des femmes en situation de handicap? Comme il a été démontré plus haut, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Mais sans la reconnaissance des instances décisionnelles de la province ou encore du pays, les avancées continueront de se faire au compte-gouttes. L'absence d'analyse différenciée selon le genre dans les études menées sur les conditions de vie des personnes en situation de handicap cache les impacts de se retrouver à l'intersection du genre et du handicap. OK, mais en quoi est-ce différent de ce que vivent les hommes en situation de handicap? Voilà une question que, en tant que militante pour les droits des femmes en situation de handicap, nous entendons souvent. Ne vous y méprenez pas, nous ne la jugeons pas du tout. À vrai dire, si la question ne se posait pas, ça voudrait dire que nous aurions déjà la reconnaissance pour laquelle nous nous battons depuis 1986. Et comme ce n'est pas près d'être le cas, c'est avec plaisir que nous l'expliquerons encore et encore. Mais avant, sachez que ce n'est pas parce que nous croyons à une analyse différenciée selon le genre que nous affirmons que les enjeux vécus par les hommes en situation de handicap sont moins importants que ceux des femmes. Bien au contraire, c'est justement ça, l'intersectionnalité, l'idée qu'il n'existe pas de hiérarchisation des formes d'oppression. nous ne sommes pas victimes du capacitisme systémique plus que nous le sommes du sexisme systémique et vice-versa. Par contre, les formes d'oppression s'entrecroisent, formant une double, voire une triple discrimination. Ces intersections ne sont pas sans conséquences et c'est pourquoi il est important de les considérer si nous voulons vivre ensemble dans une société inclusive. C'était, s'il fallait résumer les avancées dans la lutte pour les droits des femmes en situation de handicap, ce serait le communautaire, un texte de Cassandra Boyer, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad. C'est le gouvernement que j'invite à la responsabilisation. Question d'Aline Van Compernol et texte de Maria Hanné, paru dans l'édition automne-hiver du magazine Paraquad. Tout d'abord, un grand merci à vous d'avoir accepté d'être notre partenaire pour la campagne nationale de sensibilisation aux soins de santé des femmes en situation de handicap. Qu'est-ce qui vous a poussé à joindre notre mouvement? C'est avec plaisir et en position d'allié que nous avons rejoint cette cause incontournable. Notre engagement repose sur plusieurs motivations et convictions profondes. Action Cancer du sein du Québec, ACSQ, est un organisme féministe en santé qui a pour mission la prévention du cancer du sein, avec une préoccupation particulière pour les facteurs environnementaux qui font augmenter les risques pour cette maladie. Nous croyons que le travail pour la justice sociale inclut la justice en matière de santé et d'environnement. Nous privilégions également une approche en prévention centrée sur des communautés en santé et dénonçons les inégalités sociales en santé et toute forme de discrimination en santé. Nous ne pouvons accepter que des femmes en situation de handicap soient confrontées à des inégalités dans l'accès aux soins gynécologiques, oncologiques et périnataux. Toute collaboration qui nous permettrait de rendre visibles les défis que doivent affronter les femmes en situation de handicap pour accéder à des services de dépistage du cancer du sein et tout autre soin de santé nous paraît primordial. Collaborer avec Mémo QC est aussi enrichissant et dynamisant et nous sommes honorés de nous tenir à vos côtés. Notre collaboration vise à susciter des changements positifs par la force du nombre, la synergie de plusieurs groupes. C'est pour cette raison que nous nous sommes joints à vous. Ensemble, nous pourrons mobiliser l'opinion publique en faveur de cette cause cruciale. Mais je tiens à dire que nous nous positionnons en alliés car nous savons que la vigueur des mouvements composés de femmes, les premières concernées par leur propre cause, a su prouver son leadership historique. Je pense à des groupes tels que Disabled Women's Network, Dawn Canada, Réseau d'action des femmes handicapées du Canada, RAFH Canada, et Action Femmes et handicap de Montréal, des groupes qui font progresser l'équité dans les soins de santé des femmes en situation de handicap. Pourquoi la cause est-elle importante à vos yeux et à celui de votre organisme? Mettre en lumière les enjeux d'iniquité en santé rencontrés par les femmes ayant un handicap revêt une importance capitale à nos yeux et au sein de notre organisme pour plusieurs raisons essentielles. La première des raisons est le fait que, depuis plusieurs années, plusieurs constats qui justifient nos revendications dans le cadre de cette campagne n'ont pas connu d'amélioration. Le caractère encore peu suffisant des travaux de recherche en santé et en santé communautaire, ciblant les besoins particuliers des femmes en situation de handicap, est criant depuis plusieurs décennies. En plus de cela, et plus largement, le sujet des questions d'accessibilité est préoccupant. La santé est un droit fondamental et le fait de recevoir des soins équitables et accessibles est une question de justice et de dignité, selon ACSQ. S'engager pour une telle cause, c'est pour nous exposer des discriminations systémiques qui persistent et qui devraient cesser. Que pourrait-on faire pour améliorer les soins de santé dispensés aux femmes en situation de handicap? Notre liste de revendications communes est explicite. J'invite tous nos membres, citoyens, citoyennes et alliés, à les partager et les intégrer dans leurs actions et plaidoyers. Pour ne mentionner que le dépistage du cancer du sein pour les femmes ayant divers types de handicap, nous souhaitons dire que les femmes ayant des limitations d'activité rencontrent des barrières encore aujourd'hui. Plusieurs obstacles sont à mettre en lumière. Les bâtiments peu accessibles, l'inadaptation des dispositifs pour la mammographie, les appréhensions des professionnels de santé, etc. Plusieurs témoignages indiquent même le stress et les douleurs occasionnées par les gestes effectués pendant une mammographie. Les améliorations passent par des changements de pratique en soins de santé. Il y a également des responsabilités collectives à prendre pour catalyser une transformation sociale, influencer les politiques. Il faut aussi que le gouvernement fasse confiance à l'expertise de ces femmes, les premières concernées et à leurs alliés, pour le développement de plans gouvernementaux ou de stratégies de santé. C'est ce que nous espérons pour l'avenir. Que suggérez-vous aux femmes en situation de handicap qui ont envie de défendre leurs droits sur la question? Nous ne sommes pas les meilleurs pour parler au nom de ces femmes qui, sur le terrain, luttent pour défendre leurs droits. Plusieurs initiatives, par, pour et avec les femmes concernées, sont dynamiques et ont un impact depuis plusieurs années. Leurs luttes s'inscrivent depuis toujours dans le mouvement en santé et le mouvement des femmes. Je pense qu'il nous faut changer la perspective et poser la question autrement. C'est plutôt le gouvernement que j'invite à la responsabilisation. C'était « C'est le gouvernement que j'invite à la responsabilisation » question d'Aline Vancon-Pernol et texte de Maria Annet, paru dans l'édition automne-hiver 2023 du magazine Paraquad.